RCF.
Nous vivons dans un monde qui file à 100 à l'heure, un monde où l'économie dicte ses lois, un univers où la valeur se mesure souvent à la taille du compte en banque. Pour exister, il faut gagner, et pour gagner, il faut courir et se battre. Dans un tel contexte, de plus en plus d'hommes et de femmes rentrent en résistance et remettent en cause l'idéologie ambiante. À quoi sert de gagner l'univers entier si c'est pour perdre son âme? Cette phrase de saint François Xavier pourrait bien résumer leur démarche et leur art de vivre. Thomas Dansbourg, bonjour.
Bonjour.
Qui fuis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous? C'est le titre de votre livre paru aux éditions de l'Homme. Un ouvrage dans lequel vous expliquez que trop d'êtres humains vivent à l'extérieur d'eux-mêmes et vous parlez de fuite. Alors de quelle fuite s'agit-il?
C'est la fuite hors de soi. Je pense que c'est la peur de l'inconnu. Je l'ai bien rencontré moi-même quand j'ai commencé à m'intérioriser, à me comprendre. J'avais peur d'entrer à l'intérieur de moi-même. Et donc, pour ne pas rencontrer cet inconnu, je m'absorbais dans l'hyperactivité. J'étais le modèle parfait de celui qui court tout le temps, qui travaille 10 heures par jour, qui comble les moments vides par des rencontres, des contacts, du sport, des activités bénévoles, de l'humanitaire, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et le risque, quand on ajoute de plus en plus de choses à faire dans sa vie, c'est qu'inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire, parce que le temps n'est pas élastique. Et cette fuite hors de soi, je pense qu'elle a trait au fait que les êtres humains n'ont pas appris à profondément s'aimer, savoir qu'en soi, il y a un être bienveillant, éclairé, lumineux, qui nous pousse, qui nous aide. Et l'intériorité, je la vois précisément comme une capacité à faire recul à l'intérieur de soi. Faire recul dans un espace intérieur qui a au moins trois bénéfices, sans doute plus. Mais le premier bénéfice, c'est de pouvoir regarder les choses que l'on voit autrement. Ce que j'ai vu n'est peut-être pas toute la réalité. J'ai vu un aperçu, j'ai vu peut-être la petite partie de l'iceberg. Tentons de regarder avec les yeux du cœur ce qu'il y a derrière.
C'est-à-dire prendre du recul.
Prendre du recul, oui. Pour regarder autrement ce qu'on a vu. Deuxième bénéfice de ce recul, c'est pouvoir remettre en question sa propre position. Ma position n'est pas la seule, le nouveau, avec humilité. C'est une valeur qui est peu prisée aujourd'hui, mais qui est tellement riche de pouvoir de transformation, justement. Avec humilité, se dire, je peux me remettre en question. Je ne suis plus dans un rapport de pouvoir avec l'autre. Je n'essaye pas forcément d'avoir raison. Ma sécurité n'est pas dans la domination ou la résistance. Ma sécurité est intérieure. Donc, je peux me remettre en question dans cet espace d'intériorité. Et le troisième bénéfice de cette intériorité, de cette capacité de recul à l'intérieur de soi, c'est de pouvoir précisément écouter ce qu'il me semble que toutes les sagesses à travers le monde renseignent comme étant une source de paix, d'information, de messages, de guidance. Et selon les traditions, de nouveau, on appellera cette source l'esprit, la grâce, la providence, Dieu, mais aussi le maître intérieur, la présence, l'hôte. Il y a toutes sortes d'appellations à travers les traditions. J'aime constater qu'il y a vraiment une constante et qu'il s'agit donc de ne pas se bagarrer pour les mots et les appellations, mais de puiser dans cette force qui est en nous.
Donc, il s'agit de quitter cet activisme qui nous prend jour après jour pour rentrer dans une sorte de conscience.
C'est vraiment ça. Il ne s'agit bien sûr pas d'arrêter de faire quoi que ce soit. Il y a toutes sortes de choses à faire. Si on est en couple, avec des enfants, un travail et une sécurité matérielle à assurer, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je propose de privilégier l'être.
Offert,
c'est ça. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais c'est d'habiter chaque action, chaque geste du faire par une présence. Je peux faire ma vaisselle parce que je dois faire la vaisselle et si personne ne l'a fait dans la maison, la vaisselle va rester là et je suis dans le faire et je m'agite et je m'énerve. Mais je peux prendre conscience que je fais la vaisselle parce que j'ai besoin d'ordre, de propreté, d'hygiène, d'accueil, d'harmonie et que ces valeurs-là, elles tombent pas du ciel. Si je les veux dans ma vie, si je les veux dans ma cuisine, j'ai à les instaurer moi-même. Et je me réaxe sur mon axe pour voir que je suis créateur de la vie que je veux avoir. Si j'attends que toutes les choses tombent comme par magie, c'est idéal, mais ce n'est pas concret. Et si je prends ce temps de recul pour dire que je fais la vaisselle parce que j'aime l'ordre, la propreté et l'hygiène et que la maison soit accueillante pour ma famille et pour mes proches, eh bien je pense que je la ferai dans une autre qualité d'être que si je la fais juste pour la faire.
Donc à vous comprendre, il n'y a pas le moment de l'intériorité et puis il y a toutes les autres tâches, mais c'est en vivant ma vie que je peux être dans cette conscience, mais tous les petits actes de ma vie, conduire la voiture, oui. Aller au cinéma.
Absolument. Regardez comme des parents, pas seulement des parents, mais par exemple, les parents peuvent être absorbés dans le faire. Je conduis mes enfants à l'école le matin dans les embouteillages, il pleut, je suis tendu, je suis énervé, je suis dans le faire. Je m'énerve contre mes enfants qui se chamaillent, je suis dans le faire. Et puis, Faudra-t-il qu'un jour je perde un de mes enfants pour réaliser que j'avais des moments extraordinaires de partage avec eux que j'ai négligés? Alors je nous invite, même s'il pleut, même s'il y a des embouteillages, même si les enfants se chamaillent, à prendre un peu de recul intérieur pour se dire « je suis en train de faire ce que j'ai choisi de faire ». J'ai choisi d'élever des enfants, j'ai choisi de leur assurer une certaine éducation, j'ai choisi d'avoir un travail pour assurer cette sécurité matérielle, même si c'est pas forcément le travail dont je rêverais, c'est quand même quelque chose qui me permet de vivre. Et j'entre dans une conscience de ce qu'il y a plutôt que dans la plainte par rapport à ce qu'il n'y a pas.
Si je reste dans l'activisme, quelles sont les conséquences à court et à long terme ?
Ben, très vite, c'est d'être hors de soi. Et n'est-ce pas la pire des choses ? On nous a donné un corps pour l'habiter, pour être présent, pour être une conscience, pour être nourri de cette conscience, pas pour être morcelé, perdu en périphérie de soi. Je pense que beaucoup de nos souffrances viennent que nous ne savons pas qui nous sommes. Et c'est pour ça qu'en boutade, le titre de mon livre qui est donc « Qui fuis-je ou cours-tu et à quoi servons-nous ?» qui part donc du « je » pour aller vers le « nous ». En boutade, je l'avais en tête sous cette forme-ci quand je travaillais à l'écriture, c'est « Qui fuis-je ou cours-je et à quoi sers-je ?» Je pense que chacun se pose tôt ou tard ces petites questions parce qu'il se sent agité. Il m'est apparu qu'au fond, si nous trouvons une réponse de nouveau personnelle et vivante à ces trois questions-là, eh bien toutes les autres questions de la vie quotidienne semblent s'aligner. Je veux dire les questions de combien je gagne, qui sort les poubelles, quand est-ce qu'on mange, enfin toute cette logistique de la vie quotidienne semble s'aligner, s'harmoniser quand on a trouvé la réponse à qui je suis, à vers quoi je vais. Et à quoi sert ma vie ? Inversement, si ces réponses ne trouvent pas, ne trouvent pas de réponse ou qu'on ne les a même pas cherchées, je pense que toutes les autres petites questions matérielles, d'organisation, de logistique sont très problématiques parce qu'on s'est trompé de sens.
Est-ce qu'on fuit la mort quand on est dans un activisme forcené ?
Je crois bien que oui. Pourquoi avoir peur de la mort si on aime la vie ? Aimer la vie, c'est d'abord l'aimer profondément en soi. C'est prendre le temps de s'arrêter pour mesurer l'émerveillement qu'il y a d'être dans ce corps qui respire, dans lequel le cœur palpite, la circulation du sang est en mouvement. Ne fût-ce que mesurer ça, si nous nous sentons arrêtés, coincés, bloqués dans la vie, et ça nous arrive bien sûr, de pouvoir vérifier, mais mon corps respire, l'être en moi respire, et il y a un mouvement, il y a cet élan de vie à l'intérieur, ne fût-ce que physiquement, il y a une inspiration dans la structure même de mon corps. Partir ne serait-ce que de ça est déjà une occasion de se relier au mouvement de vie qui habite tout l'univers. Et il est rare que l'on fasse ce travail en conscience, alors très vite on subit. Et là on devient malheureux.
Repère RCF.
Thomas Dansbourg, dans votre livre, vous citez le philosophe juif Martin Buber qui dit « commencer par soi, mais non finir par soi, se connaître, mais non se préoccuper de soi ».
C'est une constante dans mon travail d'accompagnant, disons, psychothérapeute, mais d'accompagnant des personnes à travers les intempéries de la vie, de nouveau, de voir que les gens qui veulent bien entrer à l'intérieur d'elles-mêmes, commencer par elles, commencer par se réconcilier, commencer à faire la paix entre les différentes parties d'elles-mêmes, même celles avec lesquelles il est difficile de cohabiter. Ces personnes-là, lorsqu'elles entrent profondément dans leur élan de vie, dans leur créativité, deviennent profondément généreuses d'elles-mêmes. En entrant dans la bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'elles, la réconciliation, elles deviennent pacifiantes et réconciliées.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais c'est nombriliste de se regarder, c'est égocentrique, à quoi ça sert, je vais alors m'occuper des autres.
C'est sûr. Et moi-même, j'ai connu ça. Je m'occupais de jeunes de la rue quand j'étais encore avocat. Et l'idée d'entrer en thérapie me dérangeait. Je dis, mais je dois m'occuper des autres. Tout ce temps, puis cet argent, je ferais mieux de le partager. Et je me suis buté à l'incapacité d'accompagner un gamin dans la détresse. Moi, gentil garçon, bien éduqué, qui n'avait jamais qui m'était jamais autorisé à entrer dans ma détresse. Comment comprendre la tentative suicidaire d'un gamin alors que soi-même on a réprimé tous ces moments de désarroi, parce qu'il faut assurer, il faut être joyeux, on est obligé. Hein. Alors comment comprendre la colère, la rage, la révolte de gamins qui fracassent les vitrines, qui taguent les murs, qui agressent les gens? Comment comprendre ça si soi-même on s'autorise pas à comprendre sa propre rage et sa propre révolte? Et j'ai réalisé que j'étais incapable d'être à l'écoute de l'autre tant que j'étais pas à l'écoute de moi. J'étais incapable de respecter l'autre tel qu'il est et non pas tel que je rêverais qu'il soit, si je ne me respectais pas d'abord moi, tel que je suis, crûment, et non pas tel que je rêverais d'être. Et c'est une phrase de Rilke qui m'a beaucoup inspiré. Il nous dit « Un homme, avant de penser aux autres, doit avoir été rudement lui-même. Il doit avoir fait le tour de sa personnalité pour pouvoir la maîtriser et la mettre au service. » Et c'est la même idée que Martin Buber. Alors souvent, nos habitudes religieuses, malheureusement, nous tirent un peu hors de nous, avec de bonnes intentions. Hein. Allez vers les autres, occupez-vous des autres, c'est ça qu'il faut faire. Et il y a une belle intention, mais il y a un piège, c'est que nous ne sommes pas outillés pour les aider adéquatement, tant que nous n'avons pas commencé à pacifier notre relation et à nous ancrer dans notre être propre, au-delà de notre personnage.
Alors, commencer par soi, c'est donc vivre cette intériorité dont vous parlez dans votre livre.
Oui.
C'est s'occuper de la vie intérieure et de sentir et de vivre la vie autrement.
Oui, c'est vraiment se centrer dans l'élan de vie profond. Au sein de chaque être humain, il y a un élan de vie profond qui fait qu'il est là, qu'il est incarné, qu'il appartient au monde. Et il est rare que nous soyons branchés sur cette source-là. Nous sommes plutôt branchés sur des choses extérieures, nous insérer, nous battre pour prendre notre place, obtenir un emploi, gagner notre vie, assurer tout ce fonctionnement d'intendance. Et ce sont des choses nécessaires aussi, bien sûr. Mais nous le faisons souvent en oubliant de nous brancher profondément dans qui nous sommes. Or, si nous sommes là, dans un certain contexte, avec une certaine personnalité, c'est pas par hasard, c'est que nous avons à déployer ça, me semble-t-il, et que chacun a une profonde richesse pour contribuer à le grand orchestre du monde.
Comment changer? Parce que ça bouleverse beaucoup de choses. Si on s'accroche à notre obsession du travail, à une obsession de la reconnaissance, on passe pas du jour au lendemain comme ça à une autre pratique.
Bien sûr que non. C'est vrai que ce n'est pas magique. Nous sommes vivants, nous sommes des processus vivants. Nous ne sommes pas des écrans d'ordinateur sur lesquels on clique. Et donc c'est précieux de respecter son rythme. Ma proposition est d'y aller doucement en instaurant petit à petit des moments de rendez-vous avec l'être en soi, l'être avec un grand E, en sorte de ne plus être coincé dans son petit ego. Et ce rendez-vous n'est pas forcément long. Dans mon premier livre, c'est d'être gentil, soyez vrai, je proposais 3 minutes 3 fois par jour, un peu comme une formule homéopathique, parce que au-delà de la boutade, c'est déjà confrontant, 3 minutes de vraie présence silencieuse, dans l'assise silencieuse avec soi. De nouveau, toutes les traditions à travers l'univers proposent de s'asseoir en silence et de fréquenter l'être en soi. Mais qui dans la vie quotidienne fait ça? La plupart du temps, si l'on prend un moment de recueillement, ce sera dans une prière active où on formule des paroles et on a le mental qui circule, qui est occupé. Et ça peut avoir un bénéfice, je ne décris pas du tout ce type de prière-là. Je dis que c'est pas encore de la présence silencieuse à l'être. Et que ça, c'est assez confrontant parce que de nouveau, il y a la peur de l'inconnu. Or, ce que je vois, c'est que si on commence à instaurer ça avec une certaine régularité, c'est comme un jardinage, ça demande un peu de soin, mais un soin régulier, et bien petit à petit, la ressource dont nous parlions tout à l'heure apparaît. Tout d'un coup, l'esprit peut souffler sur la voile, parce que on lui a laissé le temps. Et ça vient pas comme un déclic magique, mais je peux encourager les personnes qui n'auraient pas cette pratique à se mettre régulièrement dans cet état de présence à soi. Et je suis convaincu que dans les semaines qui vont suivre, elles vont sentir qu'elles sont portées, qu'elles sont soutenues, qu'elles sont encouragées, que de la clarté se fait dans des choix, qu'elles vont sentir vers quoi elles tendent, vers quoi elles penchent, vers quoi leur élan de vie les mène. Et de nouveau, ce qui pousse, chacun l'appellera comme il veut, la grâce, l'esprit, Dieu, peu importe, cette ressource est là. Utilisons-la, puisons-y.
Et vous invitez aussi à vivre le présent, ni dans le passé, ni dans le futur, mais dans le présent. Alors ça, c'est difficile.
Oui, bien sûr. Beaucoup de nos souffrances viennent de ce que nous ressassons le passé. Nous ne sommes pas là, nous sommes en train de remâchonner de vieilles choses qui ne sont pas digérées. Et je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire. Bien sûr que comme thérapeute, je sais que s'il y a de vieilles colères, de vieilles blessures, de vieux traumatismes, il est important d'y passer un certain temps pour aller désamorcer, enlever l'hameçon qui fait mal là dans la chair vive. Et ça prend un peu de temps, ça prend du courage, ça demande de traverser de l'inconfort. C'est vraiment ce sens-là que pour passer un palier de bonheur supérieur, ça passe par des inconforts, c'est pas nécessairement confortable. Alors, nous sommes donc souvent freinés par du passé qui n'est pas dépassé, du passé qu'on n'a pas soldé, du passé dont on n'a pas fait le deuil. Et pourquoi cela vient-il? Parce qu'on n'a pas appris à faire le deuil. J'ai réalisé ça moi-même dans mon enfance. J'ai perdu ma mère à 20 ans d'un cancer fulgurant. Elle est morte en moins d'un mois, 3 semaines. Et à l'enterrement, avec mes frères, tout le monde nous félicitait parce qu'il n'y avait pas une larme sur nos faces. Mais moi, j'avais encodé, un garçon, ça ne pleure pas. Puis il faut soutenir papa, il faut être fort. Et donc, les amis nous félicitaient. Bravo, vous êtes courageux, c'est magnifique. Et moi, il m'a fallu 15 ans pour apprendre à pleurer ma mère. Et 15 ans d'attente et puis 5 ans de thérapie pour réaliser que j'étais incapable de m'ouvrir à la relation avec n'importe quelle autre femme tant que j'avais pas dit adieu à la première femme de la vie de tout homme qui est sa mère. Et j'ai réalisé que dans mon éducation catholique traditionnelle, j'ai pas appris à faire des deuils. On m'a pas dit qu'il fallait faire des deuils tous les jours. On m'a dit un jour tu perdras tes parents, puis ça fait partie de la vie, puis vas-y en confiance parce que voilà, tout va bien, c'est le cycle de la vie, et puis restons dans l'espérance. On m'a pas dit le deuil est un des processus nécessaires à la capacité de goûter la vie. Il y a des deuils à chaque choix. Quand je fais le choix d'une voie, je renonce à l'autre. Si je ne renonce pas en conscience, en prenant qu'une partie de moi doit faire le deuil de cette option que je délaisse, et si je ne fais pas ce deuil en conscience, je suis encombré par la partie que je n'ai pas écoutée et qui m'empêche donc de goûter celle que j'ai choisie. Et de goûter donc le présent, voilà. Alors pour moi, le processus de deuil, il devrait être appris dès l'enfance. Tout enfant qui renonce à quelque chose, on devrait lui dire, tu vois, parce que tu renonces à ça, ça te permet d'acquérir ceci. Parce que tu renonces à aller sur le chemin de gauche, ça te permet d'exercer ta liberté d'avancer sur le chemin de droite. Si tu veux pas renoncer, t'es coincé au carrefour.
Repère, Béatrice Soltner.
Thomas Dansbourg, dans votre livre « Où fuis-je ? Où cours-tu ? À quoi servons-nous ? » paru aux éditions de l'Homme, vous dites que l'intériorité ne relève pas simplement de la sphère privée, mais qu'elle a une dimension citoyenne.
Oui, c'est pour ça que j'ai appelé le sous-titre de mon livre « Vers l'intériorité citoyenne ». Je nous propose de réconcilier là deux notions qui semblent se tirer la langue depuis longtemps. L'intériorité est traditionnellement réservée à la sphère privée, chacun y vit ce qu'il veut, une vie religieuse, une vie spirituelle, spirituelle religieuse ou spirituelle non religieuse, peu importe. C'est privé. De l'autre côté, il y a l'engagement citoyen, l'appartenance à la communauté, l'engagement, les droits et les devoirs. Et c'est comme si c'était clivé, séparé. Eh bien, je réalise que de plus en plus de nos contemporains mesurent que ce n'est plus possible d'être un citoyen devant les enjeux du monde aujourd'hui sans développer cette capacité de recul dont nous parlions tout à l'heure. Cette capacité à regarder les choses autrement, à les transformer, à se remettre en question, à se dépiéger des pièges de l'ego et à se réconcilier pour pouvoir être soi-même un citoyen réconciliant, pacifiant et créateur.
Mais le fait d'avoir une intériorité a des répercussions sur notre environnement direct, de quelle manière ?
Observons simplement dans quel mécanisme d'avidité nous sommes entrés. Une petite minorité de gens accaparent toutes les richesses du monde. La fracture économique entre ceux qui ont de plus en plus et ceux qui ont de plus en moins, de moins en moins, est absolument bouleversante, avec les risques que, bien sûr, ceux qui n'ont plus rien à gagner n'ont aussi plus rien à perdre. Alors, pourquoi y a-t-il ce mécanisme d'avidité ? Pourquoi est-ce que quelqu'un acquiert des richesses bien au-delà de ce qu'il pourra dépenser et sans aucune création d'échange de services et de biens ? Eh bien, il me semble que c'est parce que la personne est piégée dans un ego hypertrophié et dans des besoins de reconnaissance. Concrètement, ça veut dire quoi l'ego hypertrophié ? Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas pris conscience qu'elle avait besoin de reconnaissance, qu'elle avait besoin de se sentir aimée, de se sentir sécurisée par l'intérieur, qu'elle n'a pas pris conscience que tout ça pouvait être nourri par une vie intérieure et qui ne trouve des solutions qu'à l'extérieur, en acquérant des richesses, en acquérant du pouvoir, en acquérant une apparence sociale, elle obtient une sorte d'ersatz de sécurité. Et ça amène à des mécanismes d'avidité qui sont compensatoires, au fond, parce que la personne n'a pas trouvé sa jubilation à l'intérieur de son être, à l'intérieur de son cœur. Donc je vois qu'il y a un impact citoyen sur ce mécanisme-là. Mais très concrètement.
Et à l'échelle mondiale, il y a des répercussions, puisque ce qui se vit individuellement va se vivre collectivement.
Absolument. Ça, c'est pour ce qui peut se vivre négativement. Je veux dire, si nous nous coupons de nous, si nous sommes divisés à l'intérieur de nous-mêmes, nous créons des rapports humains qui sont coupants et divisants. Je vois les mécanismes de violence. Pendant 10 ans, je me suis occupé de jeunes de la rue. Pris dans toutes sortes de difficultés, de violences, de délinquance, etc. Je voyais bien que la violence est l'expression tragique tragiques de besoins qui sont pas venus à la conscience. J'ai pas les mots pour dire ma colère, ma rage, ma révolte. J'ai pas les mots pour dire mes besoins d'être connu, d'avoir une place, d'être en appartenance, puis de trouver du sens à ma vie. J'ai pas cette conscience, ni ce vocabulaire. Eh ben, je passe à l'acte de la violence pour dire que j'existe et que j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Alors, voyez, il y a une portée citoyenne si ces gamins avaient trouvé une dimension pour dire « je suis en colère, j'ai besoin de trouver du sens à ma vie, je m'adresse à un service social pour m'aider à trouver du sens, ou un service paroissial, ou peu importe », et faisaient une démarche en mettant des mots émotés sur ces mots MAUX, eh bien, je pense que nous aurions beaucoup moins de violence. On a fait, inversement, des expériences aux États-Unis, je les cite dans mon livre parce qu'elles sont passionnantes. Dans 50 villes, on a constaté qu'il y avait beaucoup de délinquance et des méditants ont proposé de mettre leur méditation au service de la pacification. On a fait donc méditer des groupes de méditants de toutes confessions, des chrétiens, des juifs, des bouddhistes, des musulmans, tous ensemble dans une salle. Et on a constaté que quand les méditants méditent un certain nombre d'heures, donc en fréquentant ce qui est le plus élevé pour eux, le nouveau sens aussi de confession, dans quelque chose qui est donc rassemble ces êtres dans une même énergie, une même fréquentation de ce qui est le plus haut, le plus élevé pour eux, eh bien les taux de criminalité chutent significativement dans ces villes et on a fait l'expérience dans une cinquantaine de villes. Alors voyez-vous combien l'intériorité des uns sert la pacification des autres. Nous sommes interconnectés, nous sommes en communion de conscience et nous ne le savons pas.
Alors pour finir, j'aimerais qu'on parle de la simplicité volontaire parce que vous en parlez à la fin de votre livre. Vous dites pour vivre l'intériorité, il faut pas tout larguer du jour au lendemain, son boulot, partir dans une grotte pour faire l'ermite, mais que voilà, on peut vivre la simplicité volontaire. Alors de quoi s'agit-il?
Ben, c'est un mouvement qui m'a bien inspiré. Il arrive en Belgique depuis quelques années à l'initiative de l'association Les Amis de la Terre et il nous vient du Québec. En cliquant sur internet simplicité volontaire, les auditeurs pourront trouver de l'information là-dessus. C'est simplement un mouvement dans lequel les gens se mettre un peu ensemble pour se soutenir, à s'entraider, à simplifier leur vie. Et donc, renoncer peut-être à une journée de travail par semaine, ce qui amène bien sûr à renoncer à un certain revenu, mais pour pouvoir être plus proche de soi, plus proche des autres, retrouver un art, une pratique artistique, retrouver une créativité, peut-être entretenir un potager, en tout cas retrouver un rythme plus doux. Alors je ne dis pas que ce soit matériellement faisable pour tout le monde,
mais bien sûr. Oui, parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens.
Non, sans doute pas les moyens, on est bien bien d'accord. Mais quand même, il y a des personnes pour qui c'est possible et qui, en s'arrangeant, en réduisant le train de vie, arrivent à goûter une qualité de vie beaucoup plus grande. Leur principe est moins de bien, plus de lien. Lien avec soi, lien avec l'autre, lien avec l'univers ou avec Dieu, selon le chemin de chacun. Et l'idée n'est pas du tout d'entrer dans de se mortifier par une sorte d'ascétisme, c'est pas du tout ça. L'idée est précisément de quitter une vie mortifiante dans laquelle nous courons beaucoup trop vite hors de nous en oubliant l'essentiel. Je rencontre énormément de nos contemporains qui sont épuisés de cette course, qui réalisent qu'ils ne vivent plus en lien avec eux, avec leurs conjoints, avec leurs enfants, et que s'ils continuent comme ça, ils vont droit à la maladie, au burn-out ou à la dépression. Alors je crois que cette proposition de s'entraider à simplifier la vie est très encourageante.
Vous parlez aussi de la communication non violente que vous pratiquez, que vous avez étudiée.
Que j'enseigne, oui.
C'est aussi un élément de l'intériorité à construire.
Personnellement, j'ai été bouleversé par cette approche quand je me suis formé pour devenir thérapeute. C'est certainement l'approche qui a le plus transformé ma vie, qui m'a vraiment aidé à faire une transformation professionnelle d'abord, puisque j'étais avocat, juriste, et puis que je suis devenu psychothérapeute et formateur, et puis auteur, et puis conférencier, et que je mène une vie vraiment passionnante aujourd'hui, alors que je m'ennuyais copieusement dans mon métier de juriste. Elle m'a aidé à changer ma vie affective aussi. J'étais un célibataire vraiment pris dans un célibat défensif. J'avais trop peur de l'engagement. Et aujourd'hui, je suis marié depuis plus de 10 ans avec 3 enfants, et chaque jour de plus en plus comblé par la relation d'amour que j'ai avec ma femme et avec mes enfants, bien sûr. Et donc, j'enseigne ce processus de conscience et de réconciliation avec d'autant plus de joie qu'il m'a profondément aidé, voyez, et que je vois que tous les jours, il aide les gens. Il donne une structure à comment changer, comment aller vers soi, comment se réconcilier. Dans la religion dans laquelle j'ai grandi, on me disait « faut s'aimer », puis « pour se pacifier », et puis « aime ton prochain comme toi-même ». Oui, mais qu'est-ce que je fais quand je suis en colère ? Alors on me dit, il ne faut pas être en colère. Qu'est-ce que je fais quand je suis triste ou complètement découragé? On me dit, fais confiance, entre dans l'espérance, prie et puis tout ira bien. Ben, j'ai essayé tout ça, mais parfois ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas, en tout cas, à un rythme qui permet effectivement de se sentir, retrouver un sens à sa vie rapidement. Et donc j'ai réalisé que malgré les bonnes intentions de cette éducation religieuse, il me manquait des outils. Et pour moi, la communication non violente est un outil extrêmement performant, rigoureux et bienveillant qui nous permet de nous réconcilier à nous, à l'autre, et de nouveau à cet univers auquel nous appartenons et dans lequel, bien sûr, nous pouvons prendre conscience de la présence de Dieu.
Thomas Dansbourg, merci. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions de L'Homme. Qui fuis-je? Où cours-tu? À quoi servons-nous? Vers l'intériorité citoyenne. Cette émission était mise en onde par Joël Camus.